France Inter.
Bonsoir et bienvenue dans À la régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on va parler d'une musique que tout le monde connaît sans toujours savoir la nommer. Une musique née pour faire danser, pour faire sourire, pour faire transpirer les corps avant de toucher les cœurs. Cette musique, c'est la funk. Longtemps considérée comme une madeleine un peu kitsch, un souvenir des années 70 ou 80, la funk n'a pourtant jamais disparu. Elle a simplement attendu que quelqu'un la prenne véritablement au sérieux. Et ce quelqu'un, c'est peut-être Dabble. Producteur, musicien, il a fait un pari un peu fou. Jouer la funk comme on l'a joué à l'époque, sans ironie, sans filtre, sans distance, des synthés analogiques, des boîtes à rythme vintage, une tollbox et une seule obsession, le groove. Résultat, des millions d'écoutes, un disque d'or, une tournée avec un groupe spectaculaire, des zéniths annoncés partout en Europe et en 2026, une date à Coachella, prestigieux festival américain. Ce soir, on va donc parler d'une des musiques les plus cool au monde. Dabble est avec nous jusque 23h à la régulière.
France Inter. Régulière, Mehdi Maizi.
Comment ça va, Dabble ?
Salut Mehdi, comment tu vas ?
Ça va très bien, ça va très bien. Qu'est-ce que c'est ça que tu as là ?
Alors ça, c'est un tollbox.
Tollbox. En fait,
c'est un peu comme une chicha, mais sans fumée.
Sans fumée. Ah, ça produit un peu de fumée, mais de la fumée différente.
Exactement.
Ça produit. Alors, pourquoi c'est aussi important pour toi de venir ici avec cet instrument qui est mythique quand tu connais un peu certains musiciens importants des années 70-80, mais qui n'est pas forcément connu du grand public?
C'est exactement ça, en fait. Je trouve que c'est trop méconnu.
Ouais.
Et du coup, j'avais envie d'en parler, de montrer aussi comment ça fonctionnait. Et notamment Daft Punk l'a utilisé dans A Wonder World.
Exactement.
Un truc comme ça.
Ouais, mais sur leur premier album.
Mais sinon, ça a été beaucoup utilisé aussi dans les années 80 par Zapp & Roger.
Exactement.
Il y a Stevie aussi qui l'a utilisé quelques fois.
Stevie Wonder.
Bon,
mais tu dis Stevie.
Ouais, excuse-moi.
C'est un poteau,
c'est la famille.
Et puis c'est Stevie, tout simplement.
Exactement.
C'est un genre à lui tout seul. Et puis bien sûr, Roger Troutman.
Exactement, Roger Troutman. Il l'a beaucoup utilisé avec des synthés, mais à la base, c'était utilisé avec des guitares, principalement avec des guitares ou avec des instruments, c'est comme des guitares, ça s'appelle des styles, je me souviens plus du nom exact, okay. Désolé. Et en fait, mais c'était dans les années 60, après 70.
Comment toi, après bien sûr on va revenir sur ton parcours, mais l'idée c'est aussi de dérouler à partir de l'actualité qui est assez chaude, mais comment toi quand même tu tombes dans cette musique-là, dans cette musique qui est évidemment une musique, comme je le disais un peu dans l'introduction, que tout le monde connaît, globalement, tu sais, ce son-là, mais tout le monde n'a pas forcément diguer ou creuser autant cette musique que toi, c'est le moins qu'on puisse dire. Toi, c'est quoi ce lien que tu as avec cette musique-là ?
Pour être un peu direct, c'est la street. C'est la street.
Okay.
Parce que moi, j'ai grandi dans un environnement un peu plus Caraïbe, Afrique. Ma mère, elle écoutait beaucoup de musique antillaise, beaucoup de musique africaine, beaucoup de salsa aussi, beaucoup de... Et en fait, vraiment, là, c'est le quartier. Le quartier.
Ouais.
Moi, j'ai grandi dans le R&B aussi, tu vois, perso. Mais vraiment, c'est en fait, les grands du quartier écoutaient que de la funk.
C'est vrai que c'est une musique qui est très populaire, notamment au sein de certaines communautés. Moi,
Exactement.
Je sais que moi, d'origine algérienne, c'est moi, mes grands. Il y avait vraiment, c'est une musique qui était très très populaire. Avant le rap, en fait, c'était la funk, et puis après le rap est arrivé. Toi, c'est ça, en fait, c'est là-dedans que t'as baigné.
C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ah, mais il y avait beaucoup de rap aussi, tu vois.
Ouais,
mais c'était. Enfin, moi, les grands, ils écoutaient vraiment beaucoup de funk. Du coup, on s'est fait. Je diguais pas mal avec eux. J'ai commencé la musique par la percussion quand j'étais tout petit.
Ouais.
Mais par diguer beaucoup de vinyle. Et c'est peut-être de traîner avec les grands, d'aller faire les disquaires, d'essayer de comprendre l'évolution de la musique. Et les covers de disques aussi. Et vraiment par les grands du quartier qui écoutaient vraiment tout le temps de la funk. Et du coup, je m'y suis intéressé.
Ouais.
Après, c'est pas la même funk que j'écouterais. Eux, c'est vraiment fin 70, même, tu vois, plus James Brown, GB's, ouais, etc. Brass Construction, des trucs comme ça. Moi, c'était plus les synthés. En fait, la musique électronique, tu vois. Enfin, l'arrivée des synthés, tu vois, début 80.
Toi, c'est vraiment les années 80.
Exactement.
Ce qui correspond aussi à ton... Enfin, quand t'étais vraiment petit, que c'était la musique aussi qui
exactement.
Passait à la rame.
Voilà, c'est exactement ça. Après, il y a plusieurs types de funk. Il y a la funk très commerciale, comme Coulomb de Gang, Instrument Fire, etc. même si à la base ils faisaient du jazz, etc., mais ils ont voulu faire de la musique un peu plus populaire,
ouais.
Et ça restait quand même hyper classe.
Bien sûr.
Nous, après, on allait un peu plus loin dans le truc, essayer de comprendre, essayer de découvrir d'autres artistes, ouais. dans cette musique qui était solaire, et voilà, on avait envie de...
Alors,
d'en savoir plus, de kiffer, de... enfin bref.
Pour les personnes, et c'est grave si c'est le cas, qui n'ont jamais écouté Dabble, ça ressemble notamment à ça. J'adore, le morceau s'appelle Let's Play, ce morceau exceptionnel. Quand toi tu commences vraiment à finir ta proposition musicale et à dire finalement, moi je suis allé te voir à l'Olympia. Et à un moment tu parles au public et tu dis, c'est incroyable de remplir l'Olympia avec un groupe de funk. T'as cette phrase-là. C'est vrai que c'est complètement improbable quand tu commences vraiment à faire ça. En 2026, je l'ai dit, tu vas jouer, en plus d'une tournée des Zénith, tu vas jouer à Coachella. Qu'est-ce que ça représente pour toi, qui aurait pu vraiment être un artiste de niche, en fait, et aujourd'hui...
Mais je suis.
Ben, tu l'es, mais en fait, c'est... Alors, oui, mais oui et non, puisqu'en fait, quand t'es quand même booké sur des... que tu remplis des salles comme ça, t'es plus uniquement un artiste de niche. Qu'est-ce que ça représente pour toi ?
Bah, c'est... Il n'y a pas de mots d'arriver à... avec ce que t'aimes, et c'est pas... Enfin, tu vois, c'est en plus, ce que t'aimes, c'est quelque chose qui n'est pas au grand public, enfin, qui n'est plus le grand public. Exactement. Aujourd'hui, à mon travail... c'est justement de le faire ouvrir, d'essayer de toucher le plus de monde possible avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Voilà, mais il n'y a pas de mots, en fait.
Ouais.
Il n'y a pas de mots, c'est...
Qu'est-ce qui fait que tu veux autant, pas reproduire, mais en tout cas faire une funk qui est proche de celle qui se faisait à l'époque ? Parce que je trouve qu'il y a aussi quelque chose chez toi, c'est ce que je voulais dire dans l'introduction, il n'y a pas... T'es pas là pour faire des blagues, quoi. C'est pas. Et parfois, c'est un genre qui a pu être détourné, qui a pu être parodié. C'est pas du tout ton cas.
Je pense que les gens qui ont voulu le faire, comme tu dis, en le parodiant, je pense qu'ils sont pas allés plus loin que juste, tu vois, survoler en fait l'esthétique de la funk. En fait, pour moi, c'est si tu veux faire ce style de musique, t'es obligé déjà d'avoir étudié ce qui s'est passé avant. Pourquoi en fait s'en arriver à la funk électronique, enfin, dans le sens où on n'utilise que des synthés,
ouais.
C'est d'avoir une culture déjà, d'essayer de comprendre et ensuite de comprendre également comment ça a été enregistré, pourquoi tel synthé, en fait ces synthés ils ont été créés, pourquoi ils ont été créés ? Pour reproduire justement un orchestre de violon, pour reproduire des brasses.
Un certain son.
Exactement.
Ouais.
C'est ce qui a créé, c'est pas très réaliste, mais c'est ce qui a créé ces genres de synthé, et je trouve que ça a apporté quelque chose. Quand ça arrivait, c'était authentique et ça a créé un nouvel air. Et aujourd'hui, d'ailleurs, les synthés, ce qu'ils essaient de reproduire, c'est reproduire ces synthés d'époque, en fait.
Ouais.
C'est pas du tout la même optique, tu vois. Là où, à l'époque, ils essayaient de faire en sorte qu'elle soit le plus réaliste possible, et ça a créé des sons vraiment gras, des sons vraiment chauds. Enfin bref, on rentre pas dans le détail, parce qu'on va barber les gens.
Mais on n'hésite pas, oui, moi ça m'intéresse.
Ouais.
Mais d'ailleurs, en parlant de sons de l'époque, je crois que tu me disais en antenne que la Tollbox que tu as, c'est la même, alors c'est pas la même exactement, mais la même que George Clinton utilisait.
Non, de Roger.
De Roger Truman, pardon.
Ouais, Roger Truman, en fait, utilisait celle-ci.
Okay.
Pour, et en fait, je suis tombé dessus par hasard, parce qu'à la base, je la cherchais pas spécialement. En fait, il y a un gars à côté de chez moi qui la vendait. Je suis dit, carrément, je suis chaud. Mais
Donc, t'as vraiment ça aussi, ce côté chercheur,
carrément.
Bidouilleur un peu aussi. Il y a aussi ça chez
totalement.
Toi.
Okay. Bah, je dirais, collectionneur. Je sais pas, en fait, et au-delà de ça, j'ai envie de pour pouvoir faire cette musique, d'avoir les mêmes outils, en fait, comme un boulanger, en fait, tu vois, tu veux faire un bon pain, t'es obligé d'en savoir un peu plus sur la farine que tu vas utiliser, sur le blé que tu vas, enfin, c'est important. Si tu veux faire de bonnes choses, il faut que tu connaisses ton art sur le bout des doigts. En fait, tu dois être un peu un Shaolin de ton art, en fait, et c'est pareil dans tous les domaines. Mais moi, dans la musique, tu vois, j'essaye de vraiment savoir comment le synthé fonctionne, de savoir le réparer, ou de savoir, bref, de savoir...
Il y a un côté technicien aussi, finalement.
Exactement.
C'est pas que de l'instinct, même si ça compte. C'est vraiment aussi comprendre l'instrument, la technique.
C'est exactement ça.
Bon, alors, ton dernier album en date, il s'appelle Analog Love.
Exactement.
On va en parler. Mais avant d'en parler, j'aimerais qu'on écoute un morceau. Et qu'on écoute un morceau que j'aime beaucoup.
Vas-y.
Je pense que toi aussi, c'est ton morceau après tout. C'est Body Heat, morceau exceptionnel.
Ça,
je propose qu'on l'écoute tout de suite dans À la régulière. Et là, vraiment, on est en quelle année là à peu près pour toi ?
Ah, on est en 82 là.
On est en 82. Let's go. Let's go. Double. C'est donc le morceau Body de Double avec Oli Brune qui chante. Et donc c'est présent sur le morceau Analog Love.
France Inter. Mehdi Maizi à la régulière.
Je dis sur le morceau présent sur l'album Analog Love, évidemment. Alors Double, on va continuer à parler de toi, à parler de cet album. Mais je voulais aussi, avant ça, rappeler quelques collaborations que tu as pu faire. Certaines sont connues, d'autres un peu moins. Notamment une qui m'avait surprise à l'époque, mais qui m'avait fait plaisir, c'est une collaboration avec le J, Jules.
Je m'en fous de tout, 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 tout. Tu m'en jamais, tu m'en jamais. Je m'en fous de tout, 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 tout. Tu m'en jamais, tu m'en jamais. Bébé, j'ai le blues, 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 blues.
Alors, comment ça s'est fait? Parce que le J, il aime produire tout seul.
Ouais,
c'est rare qu'il accepte de, tu vois, de coproduire un morceau avec quelqu'un ou de laisser la production à quelqu'un d'autre. Là, ça a été le cas. Comment la collaboration avait pu se faire avec Jules?
Je crois qu'en fait, il aime beaucoup la funk.
Ouais, ça m'étonne pas.
Et en fait, il m'a envoyé un message sur Insta. Il m'a dit, gros, ça te dirait qu'on fasse un morceau ensemble, tu vois.
Tout simplement.
Je lui ai dit, bah, franchement, pourquoi pas, vas-y, testons un truc, tu vois. Et il m'a dit, comment tu veux qu'on fonctionne? Il m'a dit, je t'envoie une prod, tu testes des trucs dessus. Je lui ai dit, vas-y, ouais, je testais 2-3 trucs, mais genre vite fait. Je lui ai envoyé le truc, il m'a dit, vas-y, lourd, envoie-moi les pistes séparées. Je lui ai envoyé.
Okay.
Plus de nouvelles, et puis après, je vois le truc sort et tout. Trop lourd.
Ouais, ouais.
Merci à lui. Hein.
Très simplement, en tout cas, voilà, t'as envoyé les.
Très honoré, en tout cas.
Autre collaboration, et celle-ci, c'est vrai que je l'avais presque oublié, et ça m'a fait plaisir de m'en mettre dedans, c'est un album commun avec Sofiane Pamart. C'est le morceau Never Coming Back, donc extrait de ton album commun avec Sofiane Pamart. Et mine de rien, c'est vrai qu'en réfléchissant, je me suis dit ça a du sens parce que tous les deux, vous auriez pu être finalement des musiciens qui restent dans l'ombre. Et puis aujourd'hui, Sofiane Pamart, il vient d'annoncer un Stade de France, mm-hmm. une tournée des Zénith, Coachella, alors qu'à la base, vos propositions ne sont pas les plus pop ouais, du exactement. Monde. Il y a un truc quand même finalement assez proche entre vous deux. Est-ce que c'est ça aussi qui vous a réuni et donné envie de partir sur un projet ensemble ?
À la base, c'était juste le kiff en fait, ouais. juste l'amour de la musique. On s'est rencontrés. Enfin, avant de sortir l'album qui est sorti là, je sais plus en quelle année il est sorti, en 2023.
Ouais, je crois que c'est ça exactement.
On avait commencé à faire des morceaux, mais juste pour le kiff en fait, tu vois. Sofiane, il avait jamais vraiment touché de synthé vintage comme ça, et en fait ça l'a inspiré de ouf.
Ça a déclenché autre chose. Exactement. Par rapport à ses pianos habituels.
Et en fait, il venait de temps en temps chez moi pour kiffer. Et on s'est fait 2-3 tracks. On s'est dit, bah vas-y, franchement, vas-y, les tracks, ils sont chauds. Vas-y, ouais. viens, on se fait un petit album juste pour le kiff, tu vois.
Ouais.
Et en fait, on a juste fait l'album juste pour le kiff.
Comme quelque chose que vous avez fait rapidement et que vous avez sorti.
Exactement.
Est-ce que c'est comme ça que toi, que tu conçois un peu même ta musique, ouais. tes albums, c'est vraiment à l'instinct? Ou est-ce que tu mets un album comme Analog Love, par exemple, est-ce que tu l'as pensé pendant des semaines, des mois, des années, voire ouais. où il y a quelque chose d'instinctif chez toi?
C'est une autre, ouais, c'est une autre manière de faire sur Analog Love. En général, c'est beaucoup plus instinctif. Sur Analog Love, ça a été beaucoup plus réfléchi. On a essayé de proposer quelque chose déjà sur le de ramener des musiciens, ouais. chose que j'avais pas moins l'habitude de faire, où je travaillais assez seul en général ou ouais. en collaboration, mais avec beaucoup moins de monde. Il n'y avait pas de batteur, il n'y avait pas de guitariste, etc. Ou il y avait des guitaristes, mais c'était des potes à moi, je les appelais comme ça. Là, on a enregistré Analog Love en live, en direct.
Ouais.
Tu vois, on a loué un château, enfin, il y a eu vraiment un travail. On a ramené la console de Michael.
C'est ça dont il faut qu'on parle, c'est que tu as aussi ramené la console analogique à utiliser pour faire Thriller
Exactement.
Et potentiellement...
Il y a d'autres aussi, je pense, gros albums qui oui, ont été oui, oui. sur cette console. En fait, elle a été à Westlake Studio. Et en fait, c'est le groupe Phoenix qui l'a racheté.
Okay.
Et en fait, on a le même réparateur de synthé,
okay.
Qui s'appelle Francis, qui un jour... Moi, je cherchais une console et je dis, Francis, et tout, t'as pas une idée de console et tout. Enfin, je voulais un truc vraiment qui a un son super chaud.
Ouais.
Vraiment. Et il me dit, mais attends, je crois qu'il y a les Phoenix qui ont acheté la console de Michael et elle dort dans un hangar. Je suis, mais non, t'es pas sérieux. Je dis, mais si, mais attends, je les appelle et tout.
Elle était pas utilisée.
Elle était pas utilisée. Elle était, depuis qu'elle a été, en fait, rapatriée, donc, enfin, pas rapatriée, mais.
Rachetée et ramenée en France.
Ouais. Exactement, en pièce. Tu vois, elle était en pièce détachée, dans un hangar, sous une bâche.
Ah, c'est l'arche perdue.
C'est un truc de ouf.
Indiana Jones, l'arche perdue.
La première fois, j'arrive dans le hangar. Ils ont enlevé mais là, les trucs, il y avait plein de trucs au-dessus. Ils ont tout retiré et là, ils débâchent la console et tout. C'était ouf. Et il y a eu un gros travail de la part de l'équipe de Francis. Il y a aussi Quentin qui a travaillé ouais. dessus. Il y a eu 2 mois de travail intense pour la remettre à
niveau.
Ouais. Alors, ils ont essayé de respecter au maximum la console. Ils n'ont pas, tu vois, changé tous les condos. Ils ont essayé vraiment de la laisser... Ils ont juste fait vraiment de la maintenance pour pouvoir la remettre en vie, quoi, tu vois.
Ok.
La refaire tourner.
Voilà. Alors, évidemment, donc, on parlait de Thriller. Sur Thriller, il y a beaucoup de gros morceaux. Mais moi, mon morceau préféré sur l'album, c'est The Girl Is Mine. Est-ce que c'est l'album ultime, Thriller ?
C'est un album ultime. Ouais.
C'est un album ultime. T'en as pas forcément un, hein, parce que souvent, tu sais, il est comme c'est l'album qui a battu tous les records, il peut aussi être vu comme, souvent, comme le plus grand album de tous les ouais. temps. C'est pas forcément ta réponse, même si tu l'aimes beaucoup.
Franchement, je saurais pas te répondre. C'est un album immense, tu vois. C'est un album qui a touché tout le monde, en fait, tu vois.
Exactement.
Qui a été une claque quand il est arrivé, qui a dit, en fait, voilà, la musique... d'aujourd'hui c'est ça, la ouais. musique de demain ça sera ça
exactement
et la musique du futur ça sera ça aussi parce que ça dure tellement
exactement.
C'est un truc de ouf Et ça a touché tellement de monde.
Ouais, et t'as l'impression que tous les morceaux de l'album sont rentrés dans la pop culture, en fait. C'est exactement. Que des morceaux que le monde entier connaît. C'est quand même assez rare sur un album.
Exactement.
Double est avec nous jusque 23h. Double, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et qui me semble important. C'est Roche Music. Donc c'est un label qui se crée, je ne veux pas dire de bêtises, mais on va dire au début des années 2010, notamment créé par quelqu'un qui s'appelle Césaire, qui est aussi musicien, DJ. On avait reçu d'ailleurs dans cette émission Crayon, qui a sorti son dernier album, pas sur Roche Music, mais qui a aussi fait partie de l'histoire Roche Music. Toi, ton album sort aussi, est sorti aussi sur Roche Music, enfin ta carrière, de toute façon, en tant qu'artiste solo, on l'a aussi en partie connu là-bas. Qu'est-ce que ce label représente pour toi? Parce que moi, j'ai le sentiment que même si vous ne faites pas du tout la même musique, toi et les autres artistes signés là-bas, il y a une forme d'esprit Roche Music.
Exactement.
J'ai ce sentiment-là. Je vais pas dire qu'il y a un son, mais il y a quelque chose. Est-ce que tu es d'accord avec ça?
Ouais.
Bah, comment tu définirais
c'est
ça?
C'est avant tout une famille, en fait. Vraiment une famille. C'est d'avoir fait le tour du monde avec eux, d'avoir... Enfin, tu sais, c'est vraiment une famille... Enfin, je sais pas. Mais ouais, il y avait beaucoup de sessions studio, on était tous ensemble, où on parlait, on débattait vraiment de... On faisait de la musique ensemble, on essayait de comprendre un peu, on essayait de vraiment de s'élever tous ensemble. On se faisait écouter des choses, etc. Donc, c'est pour ça aussi peut-être qu'il y a vraiment un esprit Roche Music dans le son. Même si on avait tous un projet perso assez fort. Après, il y avait des mix, tu vois, il y a des projets où il y a des petites notes, de petits synthés, des petites rythmiques d'autres, tu vois. Ça, c'était justement les soirées passées ensemble, où on se passait les tricks, où juste on kiffait ensemble, tout simplement.
Alors, évidemment, toi, t'as aussi, je pense, créé, affiné ton personnage, ta musique, ta couleur au sein de Roche Music. Mais je t'avais connu, quelques années auparavant, au sein d'un collectif qui s'appelait The Cool Edge. Est-ce que ça, ce sont tes... Alors, je crois que tu as commencé la musique un peu plus tôt, vers 16 ans, notamment sur MySpace à l'époque, mais est-ce que ça, The Cool Edge... moi, je sais que je suis notamment un rappeur qui s'appelait Willow Amsgood à l'époque, qui faisait partie de ce collectif. Est-ce que c'est là que tu commences à faire de la musique de manière un peu professionnelle?
Non, pas du tout.
Ok.
En fait, moi, je fais de la musique donc depuis 20 ans. J'ai commencé là quand The Cool Edge, je devais avoir 28 ans, tu vois, déjà.
Ouais, ok.
Donc non, j'ai déjà fait... Avant ça, j'avais déjà fait le tour du monde en musique avec de la musique électronique. Ouais. À l'époque, je faisais de la techno. Avant de faire la techno, j'ai commencé par la funk, en fait, concrètement.
Ok, donc t'as toujours été... Ton point de départ, c'est vraiment la funk, en fait.
Ouais, c'est la funk. En fait, ça a toujours été la funk. En fait, j'ai appris la musique en faisant de la funk.
Ok. Et
pour en revenir à The Cool Edge, c'est... Alors, ce morceau-là, ça, c'est DigiKid 84 qui l'a fait.
Qui était un producteur et DJ aussi,
qui était très, très chaud.
Ouais,
et bah justement, en fait, à DigiKid 84, on l'a rencontré. Nous, on avait déjà fait le tour du monde. Et on était, un de ses grands, tu vois ce que je veux dire.
Ouais, ok.
Et après, moi, je me suis remis à faire de la funk à ce moment-là. Et on partageait cet amour pour la funk tous les deux. Et d'ailleurs, j'aurais beaucoup aimé qu'il continue, en fait. On était tous tristes de le voir de partir de tout ça. J'espère qu'il reviendra un jour avec de belles choses.
Quand tu dis que tu avais déjà fait le tour du monde avant, c'était en tant que musicien, est-ce que tu étais aussi en tant que DJ
C'était plus DJ.
Ouais.
En fait, j'étais musicien, j'étais producteur. En fait, je faisais de la musique électronique. En fait, j'ai un pote que j'ai rencontré au collège. Qui est venu chez moi un jour. Moi, à l'époque, je faisais des prods pour les rappeurs du quartier. C'était ma manière à moi de faire sortir la musique de chez moi. Parce que j'avais pas internet chez moi. Et c'était un moyen de faire exporter ma musique. Et il vient chez moi, il me dit, viens, on fait un peu de musique électronique juste pour le kiff et tout. Je dis, c'est quoi la musique électronique, en fait?
T'avais pas de culture de musique électronique à l'époque?
Alors, à part... Il y a les DAF qui apparaissaient à peu près dans mes radars à ce moment-là, tu vois. C'était début 2000. Et là, il me fait écouter donc des trucs d'électroclash, tu vois, Vitalik, etc. Et là, on commence à faire de la je suis pas tombé dedans directement. J'ai fait en fait un mix entre la funk et la musique électronique. Au début, c'était ça. Okay. Et là, sans m'en parler, en fait, il crée un compte MySpace, tu vois. Et il poste les trucs, et genre deux semaines après, il vient chez moi, il me dit « Ah, en fait, j'étais contacté par un label allemand, ils sont chauds pour sortir notre musique, ça te dit ?» Je dis « Mais non, t'es pas sérieux. » « Bah si, mais c'est en fait, je l'ai posté sur Internet, et en fait, il y a des gens qui l'écoutent un peu partout dans le monde et tout. »
Incroyable.
Donc là, ça a été le début de... Donc, on a commencé à aller en Allemagne, après, on a signé sur des labels un peu partout. On est parti, on a fait une tournée en Australie, au Japon, et à partir de là, enfin, je comprenais pas ce qui m'arrivait.
Ouais, ouais.
Mais à l'époque, on a commencé sur vinyle, donc on mixait au vinyle à l'époque.
Donc avant le Serato.
C'est, okay. Exactement. C'est okay. C'était le tout début. C'était avant que le CD arrive. Donc là, après, on est passé au CD. Donc là, on partait avec des pochettes de CD. On devait graver, etc.
Ouais, ouais.
Et puis après, on a commencé. Voilà, on a été approché par Record Maker, le label de Sébastien Thierry, Kabinski.
Exactement.
Et voilà.
Et alors. Il y a aussi quelque chose qui est, je crois, important quand on te suit, par exemple, même ne serait-ce que sur les réseaux, c'est aussi ton image. Les vidéos que tu postes pour annoncer une date ou un album, même ton look, tu sais, on sent que c'est quelque chose auquel tu fais attention. Il y a quelque chose d'assez aussi, je pense, hein, peut-être d'un hommage à quelque chose d'un peu rétro, à des musiciens que toi t'as regardé, mais en même temps, c'est toi. C'est, encore une fois, c'est important de le dire, il n'y a pas d'ironie, il n'y a pas de parodie, c'est vraiment, on sent qu'il y a une forme de déclaration d'amour très sincère, et puis c'est toi aussi, je crois que c'est juste la personne que tu es. Est-ce que ça, c'est quelque chose que t'as pensé à un moment, de se dire, bon, j'ai aussi envie de donner quelque chose, de donner un personnage.
De proposer, je dirais.
De proposer.
En fait, c'est exactement ça, c'est... Je trouve dommage aujourd'hui, tu vois, que la musique soit aussi sérieuse, en fait. Et justement, que ça soit un peu plus léger, mais surtout de surfer sur des choses qui n'existent plus pour moi. Les gars viennent en concert avec un t-shirt, par exemple, tu vois, vont faire un live avec un t-shirt avec lequel, tu vois, ils portent tous les gens. Enfin, non,
trop c'est impossible pour toi.
Moi, mon but dans la vie, c'est de faire rêver les gens, tu vois. Et j'essaye de... Je ne vais pas souvent voir des concerts, mais je fais ce que j'aurais envie d'aller voir en concert, en fait, tu vois. Je me dis, en fait, ok, non, ça ne me fait pas rêver, tu vois.
Il faut mettre un costume.
Il faut proposer quelque chose.
En tout cas, il faut avoir
quelque chose. Et ouais. Je trouve dommage, en fait, que ça soit restreint, tu vois. Il n'y a que les Américains qui arrivent et qui proposent des choses, tu vois, Beyoncé, etc. Pour moi, ça devrait être la norme. Ça devrait être la norme.
Tout le monde n'a pas les moyens de Beyoncé.
Il faut se donner les moyens. Je n'ai pas les moyens non plus.
Ouais.
Je me donne les moyens de proposer quelque chose. Je me donne les moyens, je m'endette. Je m'endette pour l'amour de la musique, pour pouvoir justement proposer quelque chose de A jusqu'à Z. Pas simplement de la funk, en fait. Tu vois.
Parce que par exemple, toi, moi, je t'ai vu à l'Olympia, tu as un groupe avec
exactement.
Toi.
Exactement,
on
est 11 sur scène.
Et ça, évidemment, tu parles d'endetté, je n'ai pas accès à tes comptes, mais j'imagine que ça coûte de l'argent. En tout cas, c'est plus compliqué que de venir seulement toi et de jouer tes sons, ce que tu pourrais faire sur un pad. Quoi, ouais.
Et ça a été extrêmement dur d'en arriver là, enfin, d'arriver avec 11 personnes sur scène. Il a fallu mettre de l'argent de ma poche.
Ouais.
Il a fallu... Les tourneurs aujourd'hui, si tu viens pas avec un ordinateur, si, on va faire genre, on ramène 2-3 musiciens qui font un peu tout, tu vois, ça a été une guerre. Donc il a fallu un peu détourner un peu les choses pour arriver là où, tu vois, avec cette proposition. Aujourd'hui, c'est plus possible. Si t'es pas U2, tu vois, et encore, eux, ils font la rentabilité. Ils mettent un écran derrière pour minimiser, etc. Non, non. Nous, on essaie vraiment de proposer que ce soit même au niveau de la lumière. La lumière qu'on utilise, c'est du tungstène. Tu vois, c'est des lumières d'époque. Les
ampoules, même ça, hein, le moindre non, mais, détail. Ouais.
En fait, moi, je veux faire révéler... j'aimerais aller voir un truc qui me donne envie de kiffer la vie, tu vois. Et j'ai envie de proposer ça aux gens. Et c'est le même principe, tu vois. Les ampoules sont plus produites. Donc, j'ai dû appeler Osram. Osram ne produit plus. J'ai trouvé leur fabricant en Chine. Maintenant, je me fais fabriquer moi-même mes ampoules. D'ailleurs, si quelqu'un... je plaisante, mais... Je peux être revendeur d'ampoules. Non, mais c'est
l'obsolescence, etc. C'est intéressant,
mais,
en tout
cas. C'est pour montrer, en fait, qu'on essaie d'aller jusqu'au bout du truc. Et d'arriver avec un truc aussi lourd, c'est... Alors, oui, ça c'est dur. C'est dur que ça soit... financièrement et à mettre en place.
Ouais.
Mais après, c'est bien parce qu'on a des gens passionnés avec nous qui, en fait, croient au projet et s'investissent énormément, tu vois. Et au début, ça n'a pas été facile, hein. T'inquiète, on a essayé de me mettre de la LED dans les pattes, hein. Petit clin d'œil à l'équipe. On a essayé de mettre des ordis, etc. Non, en fait, pour moi, la funk, c'est joué par des vrais musiciens, des gens qui, voilà, c'est de l'émotion, on partage des choses.
Bon, on est avec Dabud, on va continuer à parler de funk, mais avant ça, on va s'écouter un morceau. Mais de funk, évidemment, car il est de toi, et c'est, je pense, un de tes classiques. pour, au sein de ta communauté, c'est le morceau You and I. Exactement, on peut le dire, c'est un des morceaux les plus signatures de Dabble. Ouais, ouais. You and I, donc, morceau encore en collaboration avec l'excellente Holly Brune. On s'écoute ça, You and I, Dabble. Quel morceau! Dabble, You and I, et Dabble vient de me dire en antenne qu'il ne voulait même pas mettre ce morceau dans l'EP à la base. Vous êtes fous les artistes.
Non mais je sais pas, je le trouvais trop simple.
Ouais, mais il est
pour
trop
ça
bien.
Je l'ai mis en avant en dernier, je me suis dit, tu sais quoi, non.
Comme ça.
Ouais.
Bah t'as bien fait de le
et
mettre.
Franchement non, il a tout terrassé le truc.
Exactement. C'était You and I, donc morceau classique de Dabble, notre invité.
France Inter, Mehdi Maizi. Régulière.
Alors Dabble, je l'ai dit en introduction, tu fais de la funk. Et la funk, parfois, c'est un peu dur à résumer. Je trouve que parfois, il y a même beaucoup de confusion autour entre la funk, parfois la disco,
exactement,
parfois la soul, parfois exactement, même jazz funk. Enfin, c'est un mot, dire c'est funky, c'est un mot qu'on emploie un peu à tort et à travers. Comment, est-ce que toi, t'arriverais à définir ce genre-là?
Ouais, c'est... Ouais, la funk, la street funk en fait.
Okay.
En fait, c'est gros.
Ce que toi tu fais.
Exactement. C'est... Bon, après, j'essaye de mettre donc des voix R&B dessus pour la rendre légère, mais les instrumentaux, c'est Kaira, quoi, tu vois. Mais il y a quand même un petit pas d'amour, en fait, tu vois, qui quand même.
Tu vois, qui... C'est une musique de Kaira pour toi, la funk?
Ouais. Enfin, ça dépend quel genre de funk, en fait. Mais en tout cas, moi, celle que je fais, c'est.
Celle que tu aimes, c'est ça.
Après, sur Analog Love, j'essaie de faire un truc un peu plus pop, un peu plus, tu vois, un peu plus world, tu vois, un peu plus grand public.
Complètement. Alors, je voulais justement en profiter de ta présence pour parler de trois musiciens qui, à leur manière en France, je pense, ont fait de la funk, ont touché du doigt la funk. Et c'est surtout un prétexte pour parler avec toi de musique. Et je voulais parler d'un artiste qui est souvent vu comme un des pionniers du disco, bien sûr, mais qui a quand même, je pense, de la funk en lui. Et ça tombe bien, tu as collaboré avec lui. C'est Céron. Alors ça c'est By Myself, donc votre collaboration.
Ouais.
Pourquoi t'avais voulu à l'époque collaborer avec avec Céron?
En fait, j'étais connecté avec Because à l'époque.
Le label sur lequel Céron est signé.
Exactement. Avec Benjamin Vermeil notamment, qui m'a proposé de. Bah, en fait, à cette époque-là, je travaillais sur son album en fait.
À Céron.
Okay. Ouais. Donc j'ai fait des prods sur son album Red Lips, je crois le nom de l'album. Donc j'ai fait le morceau avec Aloe Black, c'est moi qui l'ai produit.
Ok.
Mais du coup, à cette époque-là, je faisais des Inda Studio. Je lui dis, bah écoute, Marc, ça te dirait de faire une Inda Studio avec moi? Il me dit, ah, grave, bah, il prend plaisir et tout. Donc voilà. Donc,
Ok, très simplement, c'est quelqu'un avec qui t'as collaboré. Alors, exactement. Pour la petite histoire, c'est évidemment un des noms les plus connus, mais quand on parle de musique française qui s'exporte à l'international, c'est un compositeur, producteur et batteur français. Et il est surtout connu pour son travail dans les genres disco, funk et dance music à la fin des années 70. Mais il commence sa carrière en tant que batteur et va fonder le groupe Congas. Alors, tu me disais effectivement là, quand on écoute ça, alors c'est, ça c'est pas son morceau le plus connu, après bien sûr il est Supernature, etc. Pour toi ça, même ça ce qu'on entend, c'est vraiment de la disco, c'est pas de la funk. Mais c'est important, besoin que tu nous
aides. Non, pour moi c'est de la disco. C'est de la disco, c'est fin 70, tu vois.
Ouais.
C'est pour moi c'est de la disco.
Ouais.
Tu vois, les percussions, la manière de jouer, le kick sur tous les temps, c'est de la disco.
On en parlait aussi, c'est aussi quelqu'un qui s'est vraiment exporté à l'international, et c'est quelque chose que vous avez en commun. Par exemple, je crois qu'il y a des pays où tu es bien plus connu qu'en France, par exemple, notamment en Amérique du Sud, c'est ce que tu me disais, peut-être même au Japon. Enfin, comment t'expliques ça et comment tu vis ça, cette espèce de notoriété qui est parfois plus importante? Je crois que FKJ, un confrère en tout cas, toi, au sein de la musique, c'est pareil. Ouais. Je sais, il remplit des salles qui sont parfois beaucoup plus grandes à l'étranger.
Exactement. Il est beaucoup plus connu à l'étranger. En fait, c'est avec la famille Roche Music. En fait, on a pas mal tourné à l'étranger.
Ouais.
La première tournée que j'ai faite aux US, la première fois que je suis allé aux États-Unis d'ailleurs, c'était avec FKJ. Et on a fait le tour des États-Unis. Imagine-toi, t'arrives pour la première fois, t'arrives déjà avec un visa. Tu fais OK. Alors qu'il y en a qui galèrent, tu vois.
Ouais.
T'arrives avec un visa en tourbus, donc tu découvres tous les États-Unis avec tes potes et tu kiffes. On a fini par Coachella. C'était une dingue, c'était un rêve.
La colonie de vacances,
Et pareil, après on rentrait, on se retrouvait, on allait en Asie tous ensemble, on allait en Chine faire des dates en Chine, en Corée, devant des milliers de personnes, au Japon. C'est vraiment grâce à Roche Music. En fait, c'est une famille qui s'exportait vraiment beaucoup. Tu vois, en fait, on a.
Est-ce que tu as l'impression que. Il y a des publics dans d'autres pays qui sont plus réceptifs à la musique que tu fais que le public français?
Je dirais pas plus réceptif, je dirais peut-être plus ouvert.
Ok.
Je veux pas te tirer sur la France, mais voilà, c'est assez fermé. Il y a des gens très ouverts, c'est juste en fait voilà, les médias qui sont fermés, je pense.
Ouais.
Là où je pense aux US, bon, déjà la musique que je fais aux US, ça vient de là.
Exactement.
Donc,
les codes sont immédiatement compris peut-être aussi.
Exactement, c'est beaucoup plus simple. Mais même en Amérique du Sud, il y a un engouement. En fait, la découverte d'autres choses, tu vois, je sais pas, peut-être que. Je saurais pas le quantifier, je saurais pas te dire. Mais c'est.
T'as l'impression que c'est pas le même engouement.
Exactement.
Okay.
C'est pas la même manière, je veux dire, de consommer. C'est un peu péjoratif, mais c'est la même manière.
Ok. Alors, autre groupe musicien dont je voulais parler, c'est pas de la funk non plus. Je préviens, mais c'est un groupe qui est souvent même parfois catalogué comme un groupe de jazz funk, qui est donc un groupe français formé à Paris, mené par le claviériste Alain Mion. Ça te parle, Alain Mion?
Non, désolé.
C'est pas grave, si moi aussi je peux te... Tu vois, mais c'est pas de la funk, hein. Mais c'est un groupe qui a été très important, et c'est un groupe qui s'appelle Cortex.
Ok,
et qui a été
d'accord.
Énormément samplé, notamment connu pour son album Le Troupeau Bleu, sorti en 75. Et Cortex est donc un mélange de jazz et de funk, influencé par des groupes américains de l'époque, comme Simon Herbie Hancock que Miles Davis. Le groupe n'a jamais vraiment rencontré un grand succès commercial, et sa musique n'a reçu qu'une reconnaissance limitée. Ça, c'est un morceau qui s'appelle La Rue, donc présent sur le Troupeau Bleu, qui est donc un album d'ailleurs qui, à partir des années 2000, est devenu culte pour les amateurs de funk et de jazz. Est-ce que ça te parle aussi?
Ça me parle de ouf.
Ouais.
Ça tue.
C'est extraordinaire.
Alors, c'est moins la funk que moi j'écoute à l'époque. Fait. Avec l'âge, j'ai appris à beaucoup plus l'apprécier.
Ouais.
Mais c'est, maintenant, je me mange ça. Je savoure.
Ouais. Et c'est quelqu'un qui a été, notamment été beaucoup samplé, notamment dans les hip-hop, par exemple, comme quelqu'un comme MF Doom. Et aujourd'hui, le groupe est reconnu comme un peu un groupe pionnier de la scène jazz-funk en France. Et leur son est cité comme une inspiration majeure pour les artistes contemporains, pardon, dans le domaine de la musique soul et funk. Alors, j'ai parlé de MF Doom, mais on retrouve Cortex dans tout le rap moderne, et je vais me faire un petit plaisir en écoutant un extrait d'un morceau de Rick Ross qui s'appelle Amsterdam, qui samplait du Cortex et se présente sur l'album God Forgives I Don't, et j'adore ce morceau tout simplement. I'm Barry Gordy to the streets, with a kilo so that boy that been a beast. I wanna be there when each one of my kids born. World blood, 100 acres each to live on. Real nigga to the day that I'm deceased. Even then I pray I'm living through these beats. Yo boy, you can tell by my sneaks burning Instagram green where it falls like a leaf. Born in the bricks with the short end of the stick. Et alors, je voulais parler d'un troisième artiste français, quelqu'un qui est très connu dans la pop culture, mais on oublie qu'il a commencé dans les années 90 avec son premier album Que Justice Soit Faite, qui était vraiment un mélange de funk, de soul et de pop, et cet artiste-là c'est Sinclair. Sinclair qui a eu des gros tubes dans les années 90, comme notamment Si c'est bon comme ça, mais sur son premier album donc, il y avait un morceau qui s'appelait Le Funk. Sinclair a fait des choses qui ressemblent un peu plus à la chanson française, mais il y avait en tout cas dans les premiers albums toujours aussi beaucoup finalement d'influence de la musique noire américaine. C'est pas forcément, encore une fois, la funk que toi t'as le plus écouté, mais c'est aussi finalement quelqu'un qui avait ça en lui, quoi. Est-ce qu'il y a quand même des gens en France, toi, qui ont pu aussi t'influencer ou te donner envie d'aller vers ce type de couleur-là, ou c'est essentiellement les États-Unis?
Désolé pour la réponse là.
Non, t'inquiète, mais c'est peut-être que les Américains.
Ouais, les Américains. Ouais, il y avait quelques artistes français qui étaient chauds. Il y avait aussi pas mal d'artistes italiens qui étaient super chauds, de ouf.
Ouais, ouais.
Cano, Casso. Après, il y avait aussi des artistes anglais en Europe, très chauds, très très chauds.
Ouais, ouais.
Notamment des artistes italiens, tu vois, qui ont fait des collabs avec les Américains, tu vois, qui ont créé Change notamment.
Ok.
C'est très très chaud. Même il y avait un artiste, je crois, qui venait des Antilles. En fait, c'était une collab. C'était un Italien avec un gars des Antilles qui a... J'ai plus les noms, je suis désolé.
Ok, non, t'inquiète. Et donc en tout cas, ouais, t'as vraiment creusé un panorama assez large de ce genre musical-là. Ouais. En fait, vraiment. Dabble est avec nous jusque 23h. Alors, d'abord, j'aimerais qu'on parle un petit peu notamment de quelques-unes de tes influences. Parce que je t'ai demandé, tu m'as envoyé quelques morceaux avant l'émission. Et c'est quand même, c'est vraiment de la très bonne musique. Donc je ne résiste pas à l'idée d'en jouer quelques-uns. Et notamment un morceau de Zap, More Bounce to the Hounds.
Bounce.
Alors ça, c'est un classique. Pourquoi tu voulais... Parce que même, je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent ce morceau sans même savoir le titre, sans même savoir que c'est... C'est un peu comme Atomic Dog de George Clinton. Ce sont des morceaux qu'on a entendus dans tellement de choses dans la culture populaire. En quoi c'est important pour toi, ça ?
C'est important parce que ça, c'est ce que j'écoutais vraiment. Enfin, c'est ce qu'on écoutait dans la street à l'époque, tu vois. Et au-delà de ça, en fait, plus personne n'a reproduit ça jusqu'à aujourd'hui. Enfin, c'est une proposition, tu vois, d'avoir un tall box, tu vois, la voix super wide comme ça. Enfin, que ça soit au niveau ingénierie sonore, que ça soit esthétiquement, et puis après, et puis au-delà de ça, bon, sur scène, les gars, c'était des ouf, mais ça tuait. Et d'ailleurs, ça s'était produit, c'était sur le label de George Clinton. Enfin,
Ouais, tout à fait, il me semble que c'est ça, absolument, absolument. Mais c'est intéressant parce que quand tu parles de musique, il y a la passion, mais il y a aussi le côté ingénierie. Il y a vraiment, je te parlais de bidouille tout à l'heure, c'est un mot un peu péjoratif, mais je sens vraiment ce côté...
Pour apprendre la musique, j'ai écouté beaucoup de discographie, en fait. J'ai essayé pour voir vraiment là où... Même avant de voir là où je voulais vraiment aller, en fait, tout simplement pour la culture, tout simplement.
Ouais.
Et je suis passé par là. Essayer de savoir quel réverb il utilisait, essayer de savoir quel éventail il utilisait pour cette voix-là, tu vois, le H949, le H910, tu vois, comment il faisait pour
c'est
avoir
quoi,
cette texture. C'est une sorte de chorus d'époque, c'est l'un des... C'est un chorus studio, quoi, tu vois.
Ok.
C'est éventail, et c'était produit en très peu de quantité, enfin c'était des trucs vraiment, c'était des ingés chez eux qui ont commencé à fabriquer ça, tu vois, c'était vraiment très pointu. Bon, après là, le H949, là, ils ont commencé à le commercialiser, enfin bref. Mais l'ingénierie, enfin, pour moi, il y a le groove, il y a le... Enfin, tu vois, quand tu dézoomes, juste la musique, déjà le kiff, il y a ça. Après, en fait, d'essayer de comprendre comment, en fait, cette émotion, elle est apparue. Bien entendu, il y a le côté humain du gars, ce qui l'envoie, tu vois. Mais après... Tu vois, il y a les accords, il y a tellement de paliers, en fait, tu vois. Et j'ai essayé de comprendre tous ces paliers pour pouvoir proposer quelque chose aujourd'hui, tu vois.
Il ressemble à quoi, ton studio, toi ? Ça doit être un musée, non ?
C'est un musée, ouais. C'est un musée. C'est un musée dans le sens... Enfin, il y a des gars qui ont beaucoup plus, tu vois, les anciens qui étaient là, ou les gars qui ont commencé beaucoup plus tôt que moi, où l'ère des synthés était beaucoup moins chère qu'aujourd'hui. Ils ont, je pense, beaucoup plus de belles choses. Moi, j'ai juste ce dont j'ai besoin pour pouvoir recréer cette musique-là, tu vois. Pour moi. Mais c'est sûr que pour quelqu'un qui utilise que du plugin, c'est un musée. C'est sûr.
Ouais. Bon, je propose qu'on, avant de continuer à parler avec toi, qu'on écoute un morceau de Parcells, extrait de leur dernier album Loved, et on va s'écouter un morceau que j'aime beaucoup, qui est très doux, c'est le morceau Sorry de Parcells.
Sorry that it's hard when you go. sorry that it hurts to be loved. I'm sorry that it hurts to be loved.
C'était le morceau Sorry, extrait du dernier album de Parcels qui s'appelle Loved.
Mehdi Maizi sur France Inter.
Et aujourd'hui, ce soir, on est avec Dabble, donc, qui a sorti récemment, en tout cas cette année, en 2025, l'album Analog Love, qui s'apprête donc à avoir une tournée des Zéniths, une date à Coachella. Et c'est l'heure des recommandations. J'ai demandé plusieurs recommandations. Tu m'as envoyé plusieurs morceaux, notamment le morceau de Zap qu'on a entendu avant, mais tu m'as envoyé aussi des films. Et notamment, Le Cinquième Élément, film de Luc Besson, film de mon enfance, que je n'ai pas revu depuis longtemps, et comme ça... Je ne suis pas sûr qu'il ait si bien vieilli que ça. Pourquoi ? Est-ce que tu l'as revu il n'y a pas longtemps ? Et quel est ton rapport à ce film ?
Je l'ai revu. Déjà, ce film m'a fait voyager.
Ouais.
Voyager. C'était la science-fiction, mais non, franchement, même je l'ai revu. En fait, je suis tellement fan que moi, il a pas mal vieilli.
Est-ce que Bruce Willis te manque ?
Ah ouais, de ouf.
C'est ça, en fait. Hein.
Ah, mais ouais, non.
J'en parlais avec Jérémy Nadeau la semaine dernière. J'ai l'impression que Bruce Willis, pour les enfants, pour cette génération-là, il nous manque terriblement.
Ça, c'était des acteurs, quoi, tu vois.
Ouais.
Enfin, je sais pas, tellement simple, tellement...
Corben Dallas.
Corben.
Et est-ce que... Parce que l'autre film que tu as cité, c'est Le Magnifique, avec Jean-Paul Belmondo. Je crois que c'est un film de Philippe de Broca, si je ne dis pas de bêtises. Et finalement, c'est aussi un personnage auquel, je pense, beaucoup d'hommes ont pu s'identifier, qui représentait aussi une forme de héros à la française. Mmh. Est-ce qu'il y a ça aussi dans... Tu vois une forme d'identification, toute proportion gardée, entre ce que toi tu proposes et ce que un Belmondo à son échelle a pu proposer.
Évidemment.
Ouais.
Ça a touché la France. Puis enfin pour moi ça peut faire un peu macho aujourd'hui, tu vois. Mais c'était classe, tu vois. Ça, je sais pas. Je trouvais, je sais pas son image et puis ce film.
Ouais. Et puis il a aussi voyagé, ce personnage-là à l'international. Ouais, c'est aussi ça finalement. C'est un point que vous avez en commun quelque part.
Bon, pas au même niveau.
Non, pas encore. Ah, Belmondo, bien sûr, mais on verra la suite. Dabble, c'est l'heure de la question qui tue.
Merde, je sais pas.
T'inquiète pas, rien de grave. Dabble, tu aimes la funk. Tu la connais.
That's right.
Tu la pratiques. T'as sorti des albums de funk qui font le tour du monde. Quel est pour toi,
merde,
le plus grand musicien funk de l'histoire? C'est compliqué, je sais, c'est ta réponse à toi. Sachant qu'il y a quand même énormément de génies qui ont touché à ce genre. Hein. Prince a aussi fait de la funk, même si c'est pas un artiste estampillé funk. Qui est le ou la boss pour toi?
Ça va être un peu simple hein, comme réponse. Je dirais Roger.
Roger Troutman.
Roger. Après, en fait, il y a des musiciens de l'ombre, tu vois.
Bien sûr.
Je pense, ouais... Après, ouais, c'est difficile parce qu'à l'époque, tu vois, c'était pas genre juste un producteur dans un studio, tu vois.
C'est vrai.
C'est une équipe.
C'est souvent une équipe,
exactement.
Plusieurs musiciens, bien sûr.
Exactement. Tu vois, il y a toute l'équipe de Michael.
Ouais.
Tu vois, il y a Toto, il y a... En fait, c'est tellement vaste, tellement large, c'est dur, tu vois, je peux pas...
Mais le premier nom qui te vient, c'est Roger Troutman.
C'est Roger.
Il est très iconique aussi.
Il est très iconique, puis voilà, on l'a souvent... Enfin, c'est plutôt l'image que j'ai de lui, tu vois,
ouais,
qui est aussi, tu vois, importante, tu vois.
La talkbox.
Exactement. Même au-delà de ça, c'est le voir en studio. Attends, bouge pas, non, faut le faire plus comme ça, le truc, tu vois. Là où il y a moins d'images d'autres personnes aussi, tu vois.
Oui.
Là où moi, j'axe vraiment beaucoup sur l'image et sur le... Enfin bref, ça me touche beaucoup.
Mais c'est vrai que je pense que Roger Troutman, c'est aussi quelqu'un qui a été samplé, cité dans le rap, qui est aussi un genre que tu connais, que tu as écouté. Donc moi aussi, j'ai pas ta culture folk, mais je connais Roger Troutman. Il y a aussi quelque chose, je crois, pour notre génération, c'est quelqu'un qui a aussi été pas mal célébré et mis en avant par des rappeurs américains.
Mmh.
Bon, Dabble, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Vraiment, non, vraiment, sincèrement, merci d'être venu. On rappelle donc qu'il y a la tournée des Zéniths, on rappelle qu'il y aura une date à Coachella en 2026. Et vous n'êtes que 4 Français à être programmés à Coachella cette année. Donc c'est un événement. Merci beaucoup. Et merci à toutes les personnes qui ont participé à la fabrication avec grand plaisir de cette émission. Une émission préparée par Alexa Lacour et Redouane Tella, réalisée par Gaëtan Colli. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Thomas Allard et Gaspard Guy Bourget. Merci aux équipes web et vidéo. Demain, émission spéciale James Cameron à l'occasion de la sortie de Avatar 3. À demain.